Ali, 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 Oliver.
Ne me brusquez pas, hein, vous ne me brusquez pas. Alors, on y va. Sel, sel. Dépêchons-nous, dépêchons-nous, parce qu'après, ça sera trop tard.
Ça se meurt, hein.
Non, pas là, pas là. C'est curieux, quand même.
J'accepte les régimes, mais pas les manies.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Corneille?
J'adore les sushis.
Les gens ne savent pas ce qui est bon. Les gens ont un trou dans le ventre et ils remplissent ce trou de merde.
Il n'y a rien à faire, c'est comme ça.
Et la cuisine, hein, c'est le salaire qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais.
Oh, de dessert, c'est une bûche?
Non, c'est clouc.
Bonsoir à tous et toutes, c'est De Bouche à Oreille, en direct sur Studio Zef. Une émission dédiée à la popote, la boostify, la mangeaille, la ripaille, bref, tout ce qui fait vibrer n'importe quel humain qui se respecte, et particulièrement le français. J'ai nommé la gastronomie. Mais dites donc, c'est déjà le mois de mars et la nature qui reprend ses droits. Ici et là, ça bourgeonne, ça fleurit même, ça commence à humer le printemps. D'ici quelques semaines, le colza va embaumer les campagnes. Ouf, on s'en réjouit à l'avance. Et petit à petit, les céréales vont pointer leur nez dans les champs. Bon, alors certes, il y a un peu de temps d'ici les moissons, mais ça sent bon, quoi. Alors au moment où, chers auditeurs, vous sortez votre couteau et votre planche à pain pour garnir la corbeille du dîner, eh ben on va justement parler pain. Parce que vous mangez quoi, vous, comme pain? La baguette blanche achetée au supermarché du coin, dans son emballage percé, qui sera devenue bonne pour les poules dès demain matin? Le pain de la boulangerie du coin, aux céréales complètes, parce que non, vraiment, le pain blanc, c'est fini? Ou le pain ou le vin du fournil du village? À moins que vous fassiez partie des consommateurs qui ont tourné le dos au pain à cause du gluten, totalement allergique, intolérant, ou parce qu'il est écrit dans les magazines que le pain, c'est devenu très mauvais pour la santé. Quel que soit votre profil, chers auditeurs, nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité Amédée Hio, paysan boulanger à l'Estiou, en Loire-et-Cher. Bonsoir Amédée, et merci d'être venu jusqu'à nous.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors pendant une petite heure, on va découvrir ce métier de paysan boulanger. On va parler céréales, gluten, bon pain, levure, levain. Et promis, on va vous mettre l'eau à la bouche. Fidèle au poste pour m'accompagner durant ces 60 minutes dédiées à la popote, mes chers camarades attablés. Yann, notre ex-cuisinier globetrotteur tombé en amour pour le Loir-et-Cher. Salut Yann.
Salut.
Et je crois que tout à l'heure, tu pousseras ton coup de gueule mensuel contre les sites web de recettes.
Oui, tout à fait.
Et là, ça va fighter avec Véro. Hors micro, c'est déjà parti très très fort. Marie, éditrice et néo-vigneronne, nous fera entendre le second épisode de sa chronique dédiée à la taille de la vigne. Salut Marie.
Salut Alice.
Véro, animatrice radio multicarte, bientôt Studio Zef elle toute seule, nous racontera les souvenirs culinaires de Maï et Linda en fin d'émission. Salut Véro.
Bonsoir Alice.
Et enfin Jérémy à la technique qui nous a encore concocté un programme musical de choix qui va faire exploser les pépites sonores. Mais avant de démarrer la discussion, chers camarades attablés, qu'avez-vous apporté comme bon plan dans votre panier? Qui est-ce qui commence?
Allez, je me jette à l'eau. Moi, c'est une copine japonaise qui habite la vallée du Cher depuis quelques années. Elle s'appelle Mayumi Misono. Et elle fait ce que je faisais moi auparavant en Norvège. C'est-à-dire qu'elle est chef à domicile. Elle se rend chez vous pour n'importe quel repas, un repas entre amis, une fête de famille, un mariage, n'importe quel événement. Et elle cuisine dans votre cuisine. Alors, évidemment, ce sont des spécialités japonaises. Elle fait un peu de sushi, mais elle fait surtout des curry japonais, d'autres miso, shamu, etc. Absolument délicieux. Si vous voulez trouver ses coordonnées, alors il y a deux façons. La plus simple, c'est d'aller sur Facebook, chef à domicile Mayumi Misono. On va vous mettre tout ça en ligne.
On mettra tout ça ouais, sur la page.
Et sinon, il y a une adresse email, dont c'est chefad, c'est H-E-F-A-D. .c.japonaise@gmail.com. Le plus simple, c'est d'aller sur Facebook. Bon appétit. Oui,
sinon, on vous la mettra, on vous rassure si vous n'avez pas eu le temps de la noter. Merci Yann.
Avec plaisir.
Et Marie?
Alors, mon bon plan du mois, c'est le salon de Villebarou qui aura lieu le week-end prochain.
Les 16 et 17 mars, vous voyez, de 10h à 18h30 à la salle des fêtes de Villebarou. Et là, bah, on peut retrouver des vignerons de la France entière qu'on aime, comme le domaine Binaire en Alsace, les Plageoles à Gaillac, dans le Gaillacois, Thierry Navarre de Saint-Chignan, du Quéran, le domaine Arena de Corse. Et puis, il y aura Laurence Ayard de Touraine aussi. C'est la première fois qu'il fait partie du salon qui est à Pouillet.
Ça, c'est super. On va enfin pouvoir goûter ces vins parce que Laurence, et, ils sont à peine sortis que pouf, ils ont disparu
ils
de la cave.
Ils sont déjà à l'étranger. Ouais.
Voilà.
Et puis, il y aura aussi du vin du Jura, des bottes rouges, qui est un super domaine dans le Jura. Voilà, donc c'est un grand salon à ne pas louper avec vraiment des super références.
Hein, ouais,
un incontournable, et puis juste à côté de chez nous, donc ça tombe bien.
Donc 16 et 17 mars.
À la salle des fêtes de Villebarou.
Oui, c'est le contexte salle des fêtes, qui est toujours un peu surprenant avec ce
salon. Oui, mais en fait, c'est très chaleureux.
Mais complètement, complètement. Vérou, ton bon plan ?
Oui, c'est la petite entreprise d'épices bio Masalchi. Masalchi. Alors, ils sont dans l'Allier. Ils ne sont pas tout à fait
okay,
dans le
coin.
Ok, bon, voilà.
Suivant.
Donc, je suis désolée. Hein, mais je les aime beaucoup parce que c'est une petite entreprise qui torréfie et qui passe à la meule sur place. Enfin, voilà, toutes les épices.
Des épices importées,
importées,
qui transforment.
Voilà. Et puis, les épices qu'on peut trouver. Ils ont aussi des épices simples qu'on peut trouver dans le coin. Hein, voilà. Mais voilà. Donc, je mettrai le site, les coordonnées du site masalchi.fr. C'est super bon. C'est une toute petite entreprise familiale. Voilà, ça méritait d'être salué. Voilà.
Et on les trouve où, leurs épices, du coup?
Alors, ils sont distribués dans toutes les biocopes, vous en trouvez, mais pas tout. Ils mettent pas tout, hein, mais dans toutes les biocopes, on peut trouver des échantillons. Alors, soit des mélanges, soit des... voilà, vous avez du fenouil, de l'ail, voilà, des choses comme ça, quoi.
Ok, très bien.
Voilà.
Merci, Véro. Bah, et puis,
de rien. une autre question?
Ouais, voilà. Je la prépare pour la suite. Moi, mon coup de cœur du jour, c'est Anna M, un nouveau restaurant bar à vin qui est venu remplacer le Deauville. Alors, je ne sais pas si d'aucuns parmi vous en connaissent le Deauville. Le Deauville, c'est quai de la Saussée à Blois, pas loin du parking souterrain Valin de la Veissière. Je dois avouer que je ne suis jamais entrée au Deauville, mais ceux qui sont entrés s'en souviennent.
Oui, pour toujours.
Et donc Anna Maria et Olivier Igouf ont quitté Paris pour s'oxygéner dans le Val-de-Loire, mais ils ne sont pas venus les mains vides. En fait, ils ont déménagé leur bistrot des Gobelins, Anna M, pour l'implanter en bord de Loire. Alors, pas de menu à rallonge, hein, une ardoise avec 4-5 entrées, 4-5 plats, pas plus de dessert. Anna Maria et Olivier cuisinent des plats traditionnels qu'ils revisitent à coups d'influence italienne et végétarienne. puis surtout, ils s'adaptent aux saisons. Hein. Quand je suis allée les voir, le plat du jour, c'était un navarin. Donc, on est sur des plats un peu comme ça pour se réchauffer l'hiver. Et puis, l'été, plutôt des salades, des plats plus allégés pour se rafraîchir. Et puis, moi, surtout, j'avoue que c'est mon critère de sélection. J'ai flashé complètement sur leur carte des vins, qui est presque exclusivement consacrée aux vins de Loire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont encore quelques références d'ailleurs, mais ils veulent vraiment faire découvrir les vins de Loire et toute la Loire, c'est-à-dire du Muscadet au Sancerre et peut-être même plus loin, avec des références bio et nature, dont quelques bouteilles de chez Catherine Breton ou Pierre-Olivier Bonhomme. Donc, c'est vous dire qu'ils ont envie de faire vraiment découvrir des choses très, très variées, de varier la carte aussi. Ce ne sera pas toujours la même carte des vins. Et puis, s'il fallait vous convaincre d'y aller, le menu du jour de deux plats est à 12,50 €. Donc, c'est une bonne...
Tu redis, c'est où?
C'est quai de la Saussaie, je ne sais plus le numéro, mais c'est vraiment à l'angle de comment dire, avec le parking Valin de la Veissière. Ça s'appelle Anna M. Voilà, les références. Et ils ont ouvert en mai dernier, ils vont fêter leur premier anniversaire et ils se sont fait une petite réputation, là, pas mal. Et on peut aller soit déjeuner, alors pas de réservation. Le principe, c'est pas de réservation, donc c'est au petit bonheur la chance. Et puis, on peut juste aller boire un verre avec des houmous maison, des caviars d'aubergine maison, enfin, voilà.
C'est des vins de Catherine et Pierre Breton, je précise juste.
Oui, c'est vrai. Mais alors ça, c'est peut-être mon côté plus féministe qu'il y paraît. Voilà, j'ai retenu que Catherine Breton, mais en effet, Catherine et Pierre Breton, tout à fait. Voilà, donc une petite adresse qui pourrait bien devenir une référence.
Merci Alice.
mais avec plaisir, Véro.
Il n'y a pas que les plats végétariens.
Non, le navarin.
Non, navarin d'agneau.
Oui, c'est pas un navarin de carotte.
Non, c'est pas un navarin de carotte.
Un
non, le plat du jour n'est jamais végétarien, mais il se trouve que... ils ont intégré des plats végétariens dans leur carte, ce qui forcément, moi, m'attire un petit peu.
Oui, d'accord.
Voilà.
Très bien.
Merci à vous pour ces bons plans qui seront donc sur notre page Un œil à eux.
Trop d'émissions.
Toi aussi, tu fais trop d'émissions.
C'est la Laurent Ruquier de Studio Z.
Il est temps de faire une pause. On n'a qu'à faire une petite virgule. Non, pas de virgule. Ah, je pense que là, on est vraiment
parti. On est au point.
Une bonne émission. Moi, je voudrais bien une petite virgule.
Bah, on peut la faire en direct, hein, si tu veux.
Virgule.
Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez?
Monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
C'est doux?
Ah, c'est très doux.
C'est pas trop doux?
Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec?
Non, je préférerais un demi-doux.
Ah ben moi je les aime bien ces petites virgules, ça aurait quand même été dommage d'enchaîner sur notre virgule. Donc Amédée, merci encore une fois d'être venu de l'Estiou jusqu'à nous. Je me souviens quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'avais dit que tu voulais être kiné et t'es devenu paysan boulanger. Tu peux m'expliquer le chemin que tu as suivi pour en arriver là?
Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. moi j'y vois la similitude de la pâte.
On pétrit quand même.
On utilise ses mains, ouais. On peut mettre de l'énergie... dans la pâte, et puis c'est chaud. Si la pâte est chaude, pour lever, la pâte au levain, elle a besoin de ça. Et puis, il y a ce contact avec les gens qui viennent chercher le pain. Et j'ai trouvé, en plus, qu'on voit des gens qui vont bien. Un kiné, ce n'est pas toujours le cas. Donc, sur le coup, c'est encore mieux.
C'était plus positif. Mmh. Et comment t'en es arrivé, du coup? Alors, fils d'agriculteur, hein?
Oui, c'est la chance qui m'a permis plus facilement de faire ce métier. Ouais.
Et alors, voilà, comment t'en es arrivé? Parce que je crois que papa, céréalier conventionnel.
C'est bien ça.
Si ma mémoire est bonne.
On lui pardonne.
Et donc, tu as repris les terres en 2006.
Oui, j'ai engagé en même temps ma conversion bio. C'était mon souhait à l'époque. Et j'ai, au bout de 6 mois, commencé pas à transformer ma farine, mais à transformer la farine d'un collègue qui était déjà en bio. Moi, j'étais en conversion. Et puis, j'avais plein de choses à faire sur la ferme. Donc, je n'étais pas prêt à moudre moi-même la farine. Et au bout de 2 ans, c'est arrivé, là, 3 ans, une fois la conversion faite, j'ai eu mon moulin. Et donc maintenant, j'écrase les blés qui poussent sur la ferme que je cultive. Quoi.
D'accord. Et d'emblée, quand tu as quitté donc, la voie kinésithérapeutique pour l'agriculture, c'était paysan boulanger ou ça, c'est venu progressivement?
Oui, je m'installais dans l'idée de faire du pain sur la ferme. Je me serais senti un peu seul, sinon c'était...
D'accord.
C'était un besoin d'aller jusqu'au bout d'un produit aussi, pour, d'une part, pour avoir la considération, on va dire, de mes contemporains, enfin de avoir un échange, et puis aussi d'un point de vue financier, faire que du bio, la ferme était peut-être, ça aurait été un peu juste financièrement par rapport à mes besoins, voilà.
D'accord. Et alors, du coup, moi, la première fois que j'ai entendu paysan boulanger, je me dis mais je ne connais pas. C'est quoi, du coup, paysan boulanger? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce métier?
Eh bien, c'est un paysan qui produit du pain sur sa ferme avec la farine qui est issu des blés qu'il a cultivés sur cette même ferme, sur la sienne. Quoi. Voilà.
Et est-ce que c'est récent? Parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même... J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns récemment. Est-ce que c'est une activité récente? C'est quelque chose qui avait disparu, qui revient ou...
Je pense qu'il y a un besoin de se raccaparer les moyens de production, vu que maintenant tout est très gros et le blé, il faut aller le faire moudre dans des grandes meuneries, il faut des volumes énormes, sinon on ne peut pas demander à faire moudre à façon notre production. Donc en plus, les nouveaux moyens de... disons qu'autrefois, on ne pouvait pas avoir un petit moulin comme ça sur sa ferme, c'est aussi... Le millénaire qui permet ça.
Qui fait que chacun peut être autonome avec son moulin et faire sa transformation. Et il y a ce côté, se réapproprier en fait sa production, c'est ça, c'est aller jusqu'au bout d'un produit.
Moi, c'est ce qui me plaît le plus, ouais, voilà.
Et alors, du coup, plusieurs types de. Est-ce que ça permet de cultiver plusieurs types de céréales? Quelles sont les céréales que tu cultives, toi?
Oui, bah, je m'amuse un peu, je mélange plein de variétés de blé et j'obtiens comme ça une farine qui est typique du terroir où j'habite. Et l'idée, c'est de ne pas pousser avec des engrais, tout ça, pour avoir une plante qui a du goût et une farine qui a un goût incomparable, qui est ma farine, quoi, la farine de ma ferme. Et Après, là-dessus, j'ai la mouture, la meule de pierre qui me permet aussi d'avoir une farine meilleure, on va dire.
Qu'est-ce que ça apporte ? Parce que souvent, en effet, les paysans boulangers parlent de cette fameuse... Alors, j'entends souvent parler du moulin à strier, le moulin des frères à strier. Oui, voilà, c'est ça. Le fameux moulin à meule de pierre, qu'est-ce que ça apporte par... Elle est moulue comment autrement, la farine ?
Le procédé industriel, c'est le blé qui passe à travers des cylindres en fonte. Donc c'est plutôt écrasé, c'est tamisé et à nouveau, ça repasse sur des cylindres, à travers des cylindres en fonte et l'opération se reproduit 6, 7, 8 fois. Ce qui fait que tout ça, c'est oxydé, c'est fait à des températures plus élevées vu qu'on a des rendements bien meilleurs. Et il faut essayer la farine de meule pour l'adopter. En fait, c'est suffisant. On se rend bien compte qu'on a quelque chose... qui n'est pas comparable.
C'est une farine plus épaisse, pour le coup, qui va garder d'autres, qui va garder la coque de la céréale.
Là, sur le coup, avec le tamis que j'ai, moi, c'est de la farine semi-complète. Mais on a aussi le procédé de mouture qui va remélanger intimement le germe de blé, la partie grasse, en fait, du blé, qui ne va pas être oxydé, qui va se conserver comme ça. Mm-hmm. Et dans de la farine industrielle, on n'aurait pas ce petit côté d'amande. Enfin, il y a quelque chose en plus, quoi.
D'accord.
Et puis, des vitamines. La vitamine C, par exemple, n'est pas échauffée, quoi.
Les types de blé que tu cultives par rapport aux farines qu'on peut trouver dans le commerce, hein, n'importe quelle farine, T45, 55, 65, j'imagine que c'est à peu près la même variété de blé. Est-ce que toi, tu cultives plusieurs variétés de blé, des variétés anciennes par exemple, ou un peu oubliées
Les variétés de blé, elles sont très nombreuses. Hein.
C'est ça.
Moi, j'en ai quelques anciennes et puis quelques plus récentes qui ont maintenant 10-15 ans. Quand tu achètes une farine en grande surface, tu n'as pas trop de traçabilité. Quoi. Est-ce que le blé peut être français à la limite ?
On ne sait jamais.
Tu n'as pas une variété, j'imagine qu'ils les mélangent également. Enfin, moi, j'aime bien ce mélange de blé ancien et puis un peu plus récent, mais pas poussé avec des engrais, ce qui fait qu'il n'y a aussi pas d'intolérance au gluten. Et ça, c'est assez magique de voir que des gens qui sont intolérants... Bon, je parle de faible intolérance, hein, je veux pas que tout le monde se rue chez
pas
moi.
L'allergie.
Mais voilà, il y a des gens qui se disaient allergiques, qui ne pouvaient plus manger de pain, qui redécouvrent que ça marcherait bien avec ma farine à moi. Quoi.
Justement, on reviendra un petit peu là-dessus. Moi, je voulais qu'on aborde cette question du gluten. Véro, tu voulais intervenir ?
Oui, je voulais juste que tu nous éclaires sur justement ces appellations, là, T80, T65. Alors, on voit ça sur les paquets de farine. Franchement, moi, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. Je n'ai pas tout compris.
Je compléterai la question, en fait, parce que je pense que dans la question de Yann, il y avait plusieurs choses. Donc, il y a les types et il y a aussi, en fait, quels sont tes types de... Il y a les types T50, T55, T65, etc. Mais il y a aussi le type de blé, enfin, tes types de...
Les variétés, tu
Tes variétés de blé, ça c'est encore une autre question, savoir quelles sont tes variétés de blé, de céréales, j'élargis la question.
Ouais, je vais retourner sur la partie technique du T60 jusqu'à 80 et
non,
bien plus.
Ouais, ça peut aller. Ah bah ça va jusqu'à 170.
125 dans le commerce.
Ça va jusqu'à 170.
Ouais, bah alors
ça va de 00, puis après ça va de T45 à T125 généralement.
Ouais. Donc à l'origine... Il brûlait 1 kg de farine et on pesait le résidu et le poids des minéraux après combustion. C'est ça qui donnait le type. Et donc une farine très blanche qui a été très raffinée, on a enlevé beaucoup d'écorce et la combustion est quasiment parfaite. Donc on a 40 grammes sur la T40. Et plus on laisse de son d'enveloppe, cette partie-là reste après combustion et donc on a un nombre plus élevé. Mais alors après, ils peuvent faire des trucs super dans les laboratoires, les industries. Ils peuvent rajouter plus de son qu'il y a de son normalement.
C'est-à-dire qu'ils l'enlèvent et puis après, ils le rajoutent.
Oui, puis ils en rajoutent d'une autre farine, ils en ont enlevé plus. Donc on peut monter sur des thés plus élevés. Si vous voulez avoir mal au ventre, c'est possible.
Juste une deuxième question.
On est là pour ça.
Ouais. Alors j'aime beaucoup les moulins. Donc ça, c'est mon côté Don Quichotte. Et je voulais savoir si, grâce aux paysans boulangers, on va revoir le patrimoine formidable des moulins en France. Toi, ton moulin, c'est quoi son histoire ?
Moi, mon moulin, il a été élaboré par les frères Astrier. Et puis le procédé a été repris par un jeune, Monsieur Poilane, en Bretagne, mais alors on n'est pas sur un moulin à vent.
Le pain poilane. Hein.
Comment ?
Le fameux pain poilane.
Non, c'est pas rien à voir. Mais il porte ce nom-là, aussi, ce fabricant. Et on est sur un moulin qui a des moteurs électriques. On n'a pas. Mais oui, ça permet d'entraîner aussi la bluterie qui va enlever une partie du son. Et donc, il est joli, mon moulin, mais il n'est pas aussi beau qu'un vieux moulin. Avec
il
n'a
pas les jolis, mon moulin.
Le rêve de Véronique, c'est d'avoir tous les champs d'éoliennes, un paysan boulanger au pied de chaque éolienne. C'est ça ?
Non, je trouve que c'est une belle... c'est des beaux bâtiments, c'est un beau patrimoine et je trouve que l'utiliser de cette manière-là, c'est poétique. Voilà, c'est tout. J'ai le droit, non ?
Hein ? Tu as tout à fait le droit.
Juste le type de, le type de céréales.
Oui, quelle variété ?
Moi, je fais de la variété. farine avec du blé. Hein. J'ai,
uniquement du blé ?
Ouais, désolé. Mais
non, c'est bien déjà, c'est déjà bien.
Mais avec des semences, tes semences à toi, des semences...
Ouais, j'en ai récupéré à droite à gauche, que j'ai ressemées.
Les semences paysannes, du coup, si tu les as récupérées, que tu les ressèmes, c'est qu'est-ce...
On peut les appeler comme ça,
ouais. C'est pas les blés bio inscrits au catalogue officiel.
J'en ai acheté un petit peu quelques années pour enrichir. Et puis là, dernièrement, non, j'ai réussi à retrouver chez des collègues d'autres choses. Mais bon, tout ça s'est mélangé, alors...
Ça fait du coup une variété un peu hybride, mais propre à... Enfin, hybride, non, je voulais pas dire hybride, parce qu'attention, dans ce domaine-là, faut pas raconter n'importe quoi. Un mélange propre à ta ferme, du coup.
Bah, disons que dans le champ, il y a beaucoup... les épis sont tous différents. Il y a des barbus, des hauts, des petits, des rouges. Ouais.
C'est ça. Et tu récoltes tout, tu mélanges, tu mousses ça, et ça fait une farine qui mélange tous ces blés-là.
Qui va bien. Puis j'essaye de garder une partie là, qui me paraît la plus belle pour ressemer. Et pour le moment, le mélange reste de qualité d'une année sur l'autre, ça va quoi. J'aime aussi retrouver d'autres variétés pour être sûr qu'il n'y ait pas une variété plus productrice qui prenne le dessus. Voilà, c'est pour ça que je ramène un peu. Là, comme ça, pour le moment, tout va bien.
Garder une variété. Ok.
Donc, tu as un mélange, tu as une farine à base d'un mélange. Tu ne fais pas 3-4 types de farines différentes, il y a une farine.
C'est bien ça.
Très bien.
On reviendra à notre discussion autour des paysans boulangers avec Amédée. Mais avant, on va parler un peu taille de la vigne. On avait commencé le mois dernier.
Oui,
Marie,
avec Didier Barouillet.
Voilà.
Donc, à Pouillé. Et là, ça va être la suite de l'entretien de la dernière fois.
Et là, donc, dans la région, justement, la taille, à peu près quelle période, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la taille de la vigne.
Ouais.
Et puis ensuite, l'autre question, grande question, ce serait les grandes techniques de taille aussi dans le coin.
Ouais. Après, ça dépend un petit peu des régions. C'est pareil que pour l'Anne-Martin.
Oui, c'est pour ça. On va se concentrer par ici.
Traditionnellement, on commence à tailler quand il n'y a plus de feuilles, quand les feuilles sont tombées.
Oui.
Voilà, parce que quand les feuilles sont, si les feuilles tombent, c'est qu'il n'y a plus de sève montante.
Oui.
Hein, la sève redescend dans les racines, et donc.
La plante se repose.
La plante se repose, donc quand on taille, ça pisse pas la sève.
Ouais.
La sève ne sort pas du brin.
Ouais.
Donc c'est la raison pour laquelle on commence pas avant.
Ouais.
On pourrait commencer avant parce que les vendanges sont finies depuis un bout de temps.
Ouais.
Mais non, c'est une bonne idée de laisser bien reposer, bien redescendre la sève et commencer. Mais par contre, il faut commencer quand même relativement tôt parce que ça prend beaucoup de temps.
Oui.
Hein, dans notre région, on compte à peu près 100 heures pour tailler un hectare.
Ouais. Ouais.
Tailler, je dis tout compris, hein. C'est-à-dire tailler, enlever le bois. Réparer les piquets, réparer le palissage, les fils de fer, ceux qui sont cassés, tout ça.
Oui.
Donc, 100 heures, c'est quand même du taf, quoi, c'est du boulot.
Donc, on dit à peu près début décembre jusqu'à mars.
Souvent, c'est 1er novembre.
1er novembre, oui.
Ouais, mais bon.
Ça dépend de la taille des domaines, etc. Quoi.
On dit plutôt 15 novembre. Ceux qui ont des toutes petites surfaces, il suffit de commencer au mois de mars.
Oui. Et donc tu finis à peu près en mars.
Fin mars.
Et alors pour les grandes techniques de taille dans le coin.
Les grandes techniques, la principale employée, c'est la taille Guyot. Je vous parlais de Monsieur Guyot de fin 19e, qui a inventé une technique qui est pas mal. On a un pied de vigne avec deux cornes en fait. D'un côté, une année, on a un petit poussier de deux yeux, et de l'autre côté, on a une baguette.
Oui.
L'année d'après, on fait l'inverse. On mettra la baguette de ce côté-là et le petit poussier à l'opposé.
Et le côté pour équilibrer le côté du fruit.
Les flux de sève.
Oui. Voilà. Et donc il y a un côté qui sera fructifère une année, Et puis l'autre année, c'est aussi pour équilibrer un petit peu la
flotte. Oui, oui, les flux de sève à l'intérieur du tronc.
Ouais.
Donc il y a une année, la partie avec la baguette sera plus sollicitée par la vigne, mais l'autre ne sera pas mort, quoi. Il y aura toujours de la vie. Et cette vie-là va s'accélérer l'année d'après.
C'est ce qu'on appelle le bois de l'année d'après. Enfin, c'est,
Oui, tout à fait.
Et ensuite, il y a une autre grande technique.
Il y a d'autres tailles. Ouais. On peut tailler comme dans le midi en gobelet. C'est-à-dire on laisse plein de petits poussiers de deux yeux, comme ça, quatre ou cinq. Hein. Dans le midi, les vignes, ça fait pas longtemps que les vignes ont du palissage, donc il n'y avait pas de piquet, pas de fil de fer. Donc ça faisait une espèce de grosse boule, comme ça. Ici, on peut le faire aussi, mais on fait des gobelets aplatis.
Et sur certains cépages en particulier ?
Sur des cépages fructifères.
Oui.
Ou qui donnent beaucoup de fruits, comme le gamay par exemple, c'est un cépage qui donne du fruit facilement. Par contre, pour du sauvignon, ça ne fonctionne pas.
C'est la taille en guyot, sauvignon.
Oui, parce que sauvignon, ce n'est pas très fructifère. Les premiers yeux, les yeux de la base, ne donnent pas de fruits, ou voire peut-être très peu, mais enfin, quelquefois une ou deux grappes, mais vraiment pas grand-chose. C'est les yeux de la baguette qui donnent des fruits.
Et la taille en courson, c'est...
La taille en courson, c'est une taille intéressante pour des cépages productifs.
Oui.
Mais ça peut peut-être aller aussi pour des cépages moins productifs, mais il faut en laisser beaucoup. Il ne faut pas mettre qu'une seule baguette. On appelle ça le cordon de Roya. C'est un autre monsieur de la même époque que Guyot. Il faudrait laisser deux baguettes. Enfin, on ne peut pas me filmer là, mais enfin, je vous montre. Deux baguettes avec des petits coursons de deux yeux à chaque fois.
Ouais.
Trois de chaque côté. Ça fait six coursons. Là, au niveau qualitatif, c'est là qu'on est le meilleur. Parce que plus on taille court, plus les raisins sont petits et concentrés. Donc c'est là qu'on a plus de raisins, mais ils sont plus petits. Et au niveau qualitatif, c'est beaucoup mieux. Par contre, c'est plus embêtant pour d'autres trucs. Mais après, on va dans la technique. Ça va être...
On va dans la technique.
Thank you.
bouche à oreille.
L'émission qui fait manger des épinards.
Et tout le monde a bien entendu reconnu la fugue numéro 2 de Bach, reprise en version jazzy par Jacques Loussier. Merci Jérémy pour cette découverte. On reprend notre discussion parce qu'on discute paysan boulanger, pain de ferme avec Amédée Hio. Moi je voulais qu'on revienne un petit peu, on a parlé variété de blé, justement des blés qui ne sont pas standards et qui donnent à la farine un goût particulier. Justement, j'aimerais bien qu'on parle gluten, parce qu'il y a la grande mode, il y a les vrais allergiques au gluten, il y a des intolérants, et puis après, il y a la mode qui fait qu'on ne mange plus de gluten. C'est quoi cette histoire de problème de gluten? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
Après, c'est mon interprétation personnelle, mais il me semble que l'industrie en met beaucoup dans plein de choses pour les pâtes à pizza, pour les super nouilles, enfin, pour que les nouilles ne collent pas. Ils rajoutent même, j'ai vu sur des sacs de farine, ils rajoutent du gluten dans la farine, en fait, elle écrit farine de plaie, virgule, gluten, et après des petites choses.
Quel est l'intérêt? C'est uniquement pour que ça lève la cuisson, pour que ça produise un gaz pour
la farine,
c'est plus du volume.
Ouais, voilà, ça va mieux se travailler, tu auras une aération incroyable et tout. Mais à force de mettre du gluten toujours plus dans tout,
Plus vite aussi, pour que ça aille plus vite.
Peut-être pour que ça passe dans les machines aussi. Hein, t'as les machines qui pétrissent, qui font le pain, quoi.
C'est le gluten, je crois que c'est la protéine du blé.
La glu, la FMC, c'est le truc qui est élastique, en fait.
D'accord. Et c'est vrai qu'ils ont été gonflés artificiellement, me semble-t-il, justement avec les blés hybrides, pour satisfaire à la boulangerie industrielle.
Ça doit être ça, oui.
Et pour lever. Et c'est vrai que les gens qui mangent du pain issu de paysans boulangers ou de justement de boulangers qui travaillent avec des semences paysannes, d'autres des semences... Alors bon, je sais pas.
C'est aussi beaucoup de gens qui mangent énormément de produits industriels, qui développent pas forcément une intolérance, encore moins une allergie, parce que l'allergie touche à peu près 1% de la population mondiale. On parle de 2% pour les intolérances, ce qui est très très grave, dès qu'intolérant cœliaque. Maintenant, si on mange beaucoup de produits industriels, le problème c'est que lorsqu'on arrête de manger des produits industriels, donc lorsqu'on arrête de manger des produits au gluten, donc on arrête l'alimentation industrielle, on se sent plus en forme. Et on met ça sur le dos de finalement j'étais allergique. Alors que pas du tout, c'est juste qu'on mangeait mal, c'est tout. Et on arrête de. Et quand on commence à bien manger, donc des produits qui sont bien travaillés, sans trop de gluten, on se rend compte que on n'est pas allergique au gluten, enfin on n'est pas intolérant et encore moins allergique, donc on peut tout à fait en consommer, et il faut juste consommer sain.
Mais c'est ça, et c'est peut-être découvrir d'autres pains. Est-ce que toi, Amédée, tu as des clients qui sont venus te voir en disant « je ne pouvais plus manger de pain, j'en mangeais plus
». Oui, tout à fait, on a abordé le sujet tout à l'heure. Oui, j'en ai plein qui me disent « je vais essayer quand même », qui ne savent pas trop. Et puis après, ils reviennent avec le sourire et de semaine en semaine, ils en prennent plus. Donc,
Et alors, il y a le gluten et après, une grosse différence entre la boulangerie industrielle et la boulangerie paysanne, artisanale, c'est l'histoire du pain à la levure et du pain au levain. C'est quoi un pain au levain?
Eh bien, le levain, c'est une souche sauvage de bactéries qui va faire... elle va décomposer des sucres qui sont dans le pain et elle va libérer du CO2. Ça va faire les petites bulles d'air qui vont être piégées dans la pâte. Et chaque boulanger qui fait son pain au levain a sa souche sauvage à lui. Donc, ils ont tous des pains différents. Et après, là, le grand secret, c'est de faire en sorte que le levain ne rentre pas en concurrence avec lui-même, c'est-à-dire que ça ne travaille pas trop pour pas que ça tourne à l'acidité. C'est une fermentation lactique et c'est une fermentation acide. Donc, si elle travaille trop, de toute façon,
le pain sera acide. C'est vrai que des fois, le pain au levain peut être un peu acide dans certaines boulangeries.
Je me rappelle, enfant, je n'aimais pas le pain au levain à cause de ce problème-là. Le boulanger devait être mauvais. Il y en a qui
maîtrisent plus ou moins la fermentation.
Il y en a qui peuvent aimer l'acidité. Après, moi, je trouve qu'il faut quand même qu'elle soit maîtrisée.
Et toi, tu travailles que avec des pains au levain?
Ouais, c'est ça, c'est un choix sur ma ferme. Voilà, c'est ça.
Ce qui peut être intéressant, c'est de préciser justement ton levain, c'est à base de. Tu dis il y a une souche, mais après tu rajoutes, tu le nourris.
Ah non, il n'y a pas de souche. Moi, je l'ai fabriqué avec ma farine que j'ai mis à travailler. Enfin, les bactéries, elles étaient présentes comme dans le pis de la vache. Il y a déjà la bactérie qui va faire cailler le lait. On est sur des éléments vivants, naturels. Et donc, j'ai mis de la farine, de l'eau.
Et de l'eau.
Plusieurs jours de suite, j'ai doublé les quantités. Oui. Et au bout d'un moment, ça bulle, il se passe des choses. Quoi.
Oui, pour démarrer un levain, il y a cette possibilité. Oui, on prend du levain de chez quelqu'un qui en a déjà. Oui. Et après, on le nourrit d'eau et de farine.
On prend une souche et puis après, c'est toujours le même.
Je garde toujours mon morceau de pâte. c'est important, oui. Ça, à pas oublier.
Ouais, ouais.
Un morceau de pâte que je vais pas cuire et que je mets au frais, et puis je refais vivre dès que j'ai besoin la veille. Voilà.
Après, quelqu'un qui voudrait commencer à faire un levain chez lui, comment il fait ?
Mais il faut qu'il achète de la bonne farine.
Voilà.
Déjà. Et voilà, et après, ouais. Il met de l'eau avec. Ouais. Mais il part sur une quantité une petite quantité. Vu qu'il faut doubler de jour en jour. Donc, il faut mieux mettre au début une cuillère à soupe de café, un peu d'eau dans un verre. Et chaque fois, on double la quantité existante pour donner à manger aux bactéries qui sont là. Quoi.
En farine et en eau.
Et en farine et en eau, il y a à un moment, de toute façon, une bactérie qui va prendre le dessus. Mm-hmm. Et ce sera celle-là qui va nous servir.
Et d'accord. Alors, combien de temps pour faire un levain
Au bout d'une semaine, moi, 4-5 jours, ça commence à buller.
D'accord. Quand ça bulle, c'est que ça devient utilisable.
C'est qu'il se passe des choses.
Ça devient ferment.
Voilà, c'est qu'il y a du CO2 qui se libère, c'est ça bulle.
Mm-hmm. Il ne faut pas que ce soit clos. Dans un verre, ça suffit. Quelle température à peu près?
À température ambiante, il va travailler. Ouais. Ils vont avoir faim, tes bactéries. Moi, Donc
22 degrés à peu près. 20 degrés.
Ouais.
Comme une fermentation normale.
C'est ça. Moi, je le mets au frigo pour ne pas avoir besoin de le nourrir tous les jours, vu que je ne fais pas du pain tous les jours. Et. Il faut penser à le nourrir, sinon pas longtemps il va mourir. Après le levain il va aussi s'affiner, c'est-à-dire les premières semaines il n'aura pas forcément le même goût qu'un levain qui a un ou deux ans. Voilà.
Et du coup le levain va être lié à ta farine en fait. C'est-à-dire que le levain que tu fais ne sera pas le même que le levain du boulanger d'à côté ou du paysan boulanger d'un autre paysan boulanger. Il y aura vraiment la typicité de la farine dedans.
Moi, je pense, ouais. Et puis, plein de choses. Le cadre aussi, sûrement, quand un cadre est plus dur, le vin, les bactéries, pour être résistantes, elles ont peut-être besoin d'être plus fortes. Donc, on va vraiment. Chaque boulanger va avoir son goût particulier, quoi, son levain particulier.
On est vraiment là, en dehors d'une standardisation.
Je sais pas ce que l'Europe dit de tout ça. Enfin, ça marche.
Ah oui, voilà, c'est ça. Vous êtes assujetti à des normes par rapport à.
Non, mais là, on est sur. Il n'y a pas de risque, en fait, sur du pain. En plus, on vend un produit qui va être cuit et il n'y a pas de matière grasse. Donc, de toute façon.
À haute température.
Ouais.
Et alors, justement, tu disais, tu ne fais pas du pain tous les jours. Comment on travaille quand on est paysan boulanger? On ne peut pas et gérer ses céréales et se lever à 3 à 4 heures le matin pour avoir le pain.
Ça ne marche pas très longtemps.
C'est ça. On s'épuise.
Et moi, j'ai fait le choix de faire 2 jours de panification. Mm-hmm. Au début, 3, mais 2, en fait, c'est amplement suffisant physiquement. Et donc, j'en fais le jeudi, le vendredi avec... un peu de vente à la boutique, au fournil, en fait, le temps de ranger les pains pour aller après vendre dans mes AMAP. Ça marche sur commande principalement.
Sur commande et uniquement en AMAP ou alors, je veux dire, il y a le fournil et sinon, c'est AMAP, pas de magasin, je ne sais pas.
Oui, c'est anecdotique, un petit magasin bio, une école, une école primaire, celle de mère, une fois par mois. Mais finalement, le système des AMAP, moi, me permet de transformer une partie de ce que je produis. Voilà, ça me va bien comme ça sur la ferme.
D'accord. On reviendra sur ce circuit de commercialisation et justement la plus-value que ça peut apporter à un paysan de transformer sa production. Yann, je crois qu'on va parler site de cuisine et juste à on écoute Catherine, le fameux poulet numéro 728-120 après l'annonce de la chronique de Yann, forcément.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Alors, chère Véronique, puisque cette... rubrique va s'annoncer, j'oublie un verbe, ça va être pour toi, voilà. Alors Véronique,
c'est une émission puzzle aujourd'hui.
Je m'attends à ce qu'elle me casse mes lunettes à la fin de cette rubrique. Donc cette semaine, ma chère Véronique, je me suis intéressé au site de recettes en cuisine en ligne, où tu te rends quotidiennement apparemment, puisque c'est pratique pour plein de gens qui...
T'as de la chance,
pas Internet. Comme toi ou comme toi, apparemment n'ont pas de livre de cuisine chez eux.
Non, et puis Véronique, il n'y a pas de livre chez elle.
Bah non, justement, pour ça, c'est un petit peu bizarre qu'elle se rende sur ces sites-là. Ou alors, ils ont la flemme de les ouvrir, je ne sais pas. Toujours est-il que ces sites sont très populaires. J'en cite deux, les plus populaires, je crois, qui sont marmiton.fr, j'y vais pas souvent, je ne sais pas comment le prononcer, et 750grammes.fr. Alors, 750 grammes, ça fait référence à quoi? Ça, je ne sais pas du tout. Bon, ça vous de deviner. Alors, chercher les recettes en ligne, c'est bien, pourquoi pas. Le problème, c'est que quand on commence à les lire, on s'aperçoit clairement qu'elles ont été postées par des amateurs qui, chez eux, ont testé et trouvé super bons des plats que seule la seule lecture de l'intitulé devrait quand même faire un peu tilt dans la tête du lecteur. Alors, on va commencer par taper dans la barre de recherche de Marmiton, un dessert tout simple que ma femme, mes enfants et moi-même affectionnons plus particulièrement, le tiramisu. On est fan d'Italie chez nous. Alors on tape tiramisu et là, on a tout un tas de recettes que je me fais un plaisir de vous énumérer. Le tiramisu au Nutella. Mmh. Bon. Les crêpes tiramisu. Tenez-vous bien. Tiens-toi mieux. Tiramisu, jambon de Parme et tomate.
Ou bigre.
C'est quand même pas mal. Hein.
En dessert, c'est un
alors,
peu
alors, moi, je cherche le tiramisu classique, mais je n'y suis pas encore. Donc, je descends la page. J'ai tiramisu au cottage cheese au saumon fumé. Bon. Tiramisu sans lactose. Je ne sais pas comment ils font. Avec de l'huile. Délicieux. Macaron tiramisu. Ah, ça, ça a l'air pas mal. Tiramisu margarita. Ça, c'est peut-être pour une soirée olé olé. Brownie tiramisu. Tiramisu aux pêches. Hein, je continue. Tiramisu aérien, aux oreos, aux spéculoos, aux fraises, au café. Bref, à la deuxième page, tout en bas, on tient un tiramisu classique. Alors, j'ouvre la page et je lis les ingrédients. Alors, 36 biscuits cuillères. On va faire un paquet de tiramisu. Hein. 3 œufs. Oula. Ça fait quand même beaucoup de biscuits pour très peu d'œufs. Hein. Je continue quand même. 250 g de mascarpone. Ça tient avec les œufs, plus trop avec les biscuits cuillères. Un grand café. Jusqu'ici, tout va presque bien. Et on continue à lire. Une cuillerée à soupe d'amaretto. Stop. On arrête tout. Je m'en doutais un peu, remarqué. L'amaretto n'a rien à faire ici. Il faut repasser pour la classique tiramisu. Bon, je tente autre chose. Je vais dans la rubrique recettes de cuisine classique. Je tombe sur la recette de la crème brûlée. Alors, ils y mettent du lait. Grave erreur.
On met quoi ?
Il n'y a que de la crème dans la crème brûlée, sinon ça s'appelle du lait brûlé.
Oui. Hein, alors Alice, alors, franchement, réfléchis 5 minutes.
Hein. Bah oui, enfin. Et puis il n'y a pas de vanille dans cette recette, hein, alors que bon, c'est quand même assez fondamental.
C'est
sinon, sinon je ne vois pas trop l'intérêt. Je tente donc les plats principaux classiques. Le bœuf bourguignon, bah, ça tombe bien, je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Peut-être vais-je enfin tomber sur la perle rare, on ne sait jamais, une recette secrète familiale gardée jalousement depuis des décennies dans un grenier et redécouverte par un petit enfant pendant les vacances, 2 mois après l'enterrement de grand-mère. Je lis donc « Bœuf bourguignon rapide
». C'est peut-être antinomique.
Préparation 10 minutes, cuisson 1 heure. Alors je vous laisse deviner mon désarroi. Je vous avais déjà parlé ici hein, de cette intrigante et agaçante habitude qu'ont les gens à vouloir cuisiner, se débarrasser du repas en moins d'une demi-heure. Mais alors là, on touche le fond. Un bourguignon en moins d'une heure et demie. Hein, bon, un peu plus bas, il y a une paella. On dit paella en espagnol. Hein. Bon, je vais dire à la française, une paella.
Ouais.
Alors
merci,
c'est marqué
«
paella ». Peu coûteuse et très bonne. Alors ça, c'est une accroche. Hein. C'est mieux que pas là, cher et dégueu. Hein. Je vous l'accorde. Mais là aussi, on a pas de temps à perdre. Une demi-heure de préparation, 1 heure de cuisson. Je passe. Je ne vais pas m'attarder sur ces recettes en détail, mais vous allez comprendre mon chagrin quand je vais vous dire tout ce que je trouve de plus fantaisiste à mon goût. Alors j'y vais. Allons-y, Véro. Lasagne de dorade aux artichauts. Avec la béchamel et tout et tout. Bon, une salade thaïlandaise au vermicelle de riz. Bon, pourquoi pas, mais il y a des carottes et du pamplemousse. Bon, après vérification, point de carottes et pamplemousse dans la cuisine thaïlandaise. C'est pas parce qu'un fruit est exotique qu'il doit se retrouver dans toutes nos confessions asiatiques ou venant des îles. Alors, je continue. Rillettes de saumon et jambon. Alors là, il faut vraiment être gonflé pour appeler ça des rillettes. Hein. Il n'y a pas de gras. Si c'est, hein, il y a que de la crème fraîche.
Ah bah moi, ça me va.
Mais non. Alors là, on est clairement dans les terrines bon marché des années 80. Hein, celles qu'on étalait sur les toasts pour l'apéro du dimanche quand on avait des invités. Même ceux qu'on aimait. Hein. On tombe aussi sur comment faire des frites au four. Alors, c'est pas comment faire des frites au four. C'est bizarre que là, ce n'est pas des frites si elles ne sont pas frites d'abord. Hein. Puis c'est au four, appelez ça pomme de terre au four, hein. Ça ira plus vite. Surtout que dans la recette, c'est de l'huile d'olive.
Je chipote pas du tout, tant que tu penses.
Non, je chipote pas. Non, mais attends, c'est pas des frites. Alors, avec de l'huile d'olive, alors j'aime bien qu'on se soucie de diététique, mais le goût de l'huile d'olive sur les pommes de terre, non merci. Bon, rebref, dans la rubrique
c'est
Breton
qui parle, là.
Dans la rubrique des plats, on trouve des pizzas. Alors, on vous dit que la pâte, c'est une pâte à pain, alors que, bah non, hein, ce serait trop facile quand même si c'était une pâte à pain. Et puis, on y met du lait, là, dans la pâte.
Bon. Un peu d'huile d'olive.
Pourquoi pas? Alors, non, décidément, j'encourage vivement à tous et toutes d'investir dans un livre de cuisine. Hein. On en recommande assez souvent dans cette émission. Alors, ça prend un peu de temps à lire, mais au moins, on peut se retourner vers l'auteur en cas de mauvaise surprise. Et ça évite de devoir copier des expériences douteuses de mauvais cuisiniers maison qui se croient obligés de partager leurs recettes gribouillies sur Internet sous le prétexte que tout le monde a aimé ça quand ils l'ont fait. Alors, il y a une émission sur laquelle je tombe de temps en temps à la télé. J'en connais pas le nom, mais ce sont des mauvais cuisiniers dont les amis n'osent pas leur dire à quel point ils souffrent quand ils sont invités chez eux. Et quand ils l'apprennent, ils tombent des nues, les gens. Mais en fait, il faut être honnête. Hein, un peu d'honnêteté sera la bienvenue de temps en temps. S'il vous plaît, les gens, quand un ami, un mari, une femme, que sais-je encore, vous fait un plat pas bon, dites-leur. Ça évitera de retrouver leur recette sur Marmiton.
Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré le poulet, mon poulet numéro 728120. Je t'aime. Je pense à toi.
Voilà, après le fameux poulet numéro 728120 de Philippe Catherine, qui a permis d'apaiser un petit peu l'atmosphère de ce studio quelque peu électrique suite à la chronique très
énervée. Ah, c'était tendu.
Hein. Ouh là 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 là, on en est presque venu aux mains. On reparlons pain pour apaiser le débat. Donc Amédée, oui, tu nous disais que tu fais la boulange donc 2 jours par semaine, tu distribues en AMAP. Est-ce que les collectivités, tu les touches, type cantine scolaire ou pas vraiment ?
Il y a une loi qui était passée, il y en a eu différentes, où il parlait d'introduire du bio dans les cantines 20, scolaires.
20% dans les cantines d'ici 2020.
Oui, bah, tout doucement, on avance peut-être un peu dans cette direction. En tout cas, moi, oui, c'est une fois par mois pour un seul groupe scolaire, celui de mer, les primaires. Mais il y a aussi le problème des livraisons. On peut me demander pour des petits villages. Il faut croire que les boulangeries là-bas ne font pas de pain bio. Et moi, je ne peux pas aller livrer 10 pains d'un kilo.
Il y a une demande pour le pain bio. Tu l'as noté, le fait que ton pain soit bio, c'est vraiment une plus-value.
Bah en tout cas, pour rentrer dans le cadre de la loi, oui. Voilà, de la part des écoles. Mais oui, je pense qu'il y a des gens qui cherchent à manger différemment. Ouais.
Les clients qui viennent au Fournil, c'est quoi ? C'est des habitués ? Alors, il est ouvert quand le soir, de journée ?
Je suis ouvert de 16 à 17 avant d'aller livrer, c'est pas beaucoup. Le jeudi et le vendredi.
D'accord.
Dans le centre de l'Estio.
Dans le centre. Et c'est super mignon. Je connaissais pas l'Estio. Enfin bon, voilà, parenthèse, c'est très, très joli. Le Fournil est très sympa aussi. Et du coup, voilà, les gens qui viennent, c'est des habitués que tu as réussi à fidéliser. C'était des gens qui étaient déjà convaincus. Parce que c'est quand même pas la même chose de prendre un pain, même d'une bonne boulangerie, ça n'a pas le même goût qu'un pain d'un paysan boulanger ou le pain d'un boulanger qui travaille qu'avec des au levain et avec des variétés paysannes.
Beaucoup de bouche à oreille finalement. Au début, j'ai fait quelques marchés les premières années. Puis là, ouais, le bouche à oreille suffit. Puis peut-être l'émission d'aujourd'hui. Mais ouais, voilà, des effets d'annonce comme ça par moment. Mais oui, là, c'est le bouche à oreille avant tout. Hein. Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on te dit par exemple par rapport à tes pains quels sont tes retours sur pourquoi les personnes aiment tes pains ou qu'est-ce qu'ils aiment dans tes pains ? En termes d'arôme, par exemple, oui. Ou alors d'alvéoles, de mie, de croûte.
Moi, j'ai des petits-enfants qui m'ont dit que c'était le meilleur pain du monde, donc ça me plaît beaucoup.
Oui, mais ce sont des enfants.
mais je dirais justement parce que les enfants,
ça compte pas.
Notamment dans les cantines, sont habitués à manger un pain tellement facile. Tellement mou, tellement blanc, que du coup, ça peut les surprendre, un pain comme
insipide.
Ça. Qui est... Insipide, j'osais pas le dire, merci.
Oui, j'y ajoute des petites graines, finalement, pour l'école primaire que je livre. La première fois, justement, j'ai eu un retour On m'a dit, bah, ils en ont laissé. Et je me dis, c'est pas possible qu'ils n'aiment pas mon pain. Et donc, je leur offre des petites graines autour du pain. Et là, sur le coup, ça y est, ça marche bien.
Des petites graines.
Mais c'est-à-dire, je roule les pâtons dans des graines de lin, sésame et tournesol. Ah. Et une fois que ça passe au four,
ça ajoute un goût, c'est gourmand.
Bon, ça. Et ça leur plaît parce que ça croustille un petit peu.
Ouais, puis ça a du goût. Hein.
Ouais. Oui, c'est gourmand.
T'as plusieurs variétés de pain ou
Bah, c'est la même farine que je décline. Ouais. Hein. Je peux le rouler dans du sésame, du pavot. Et mélanger ces fameuses graines, même dans le pétrin. Donc là, j'ai l'intérieur, il y a des graines aussi, quoi.
Ah oui, donc un pain...
un pain aux graines, voilà.
Aux graines,
oui.
Ouais,
et aussi, le pain que je vais appeler gourmand, je mets raisin, noisette, chocolat, ça, bah, pour le petit-déj. Voilà.
Ah bah non, mais il ne te manque plus que la brioche. Hein.
C'est une brioche, c'est gourmand. C'est
extra.
Ouais, il faut que je laisse des choses aux autres aussi. Hein.
Je pense qu'il y a suffisamment de gourmand pour...
On rajoute le beurre sur le pain, hein.
Ouais.
Pas sur le pain gourmand, ce serait dommage.
Ah, c'est plein de beurre, plein de beurre.
Je beurre sur un pain gourmand.
Bien sûr.
Alice,
sur
le gras, c'est la vie.
Sur le pain gourmand, je veux dire avec le chocolat, les fruits, les noisettes, c'est quand même un peu. Si Marie, t'as peur de rien.
Ouais,
si,
même à m'aider.
T'es pas obligé, mais au bout de la troisième tartine, t'essayes avec du beurre.
C'est ça.
Du beurre salé, bien sûr.
À quelles AMAP on trouve le pain de ton fournil?
Chaque côté, 7-8 km, à Mer et Beaugency.
Mer et Beaugency, d'accord. Qui sont les quels jours?
Le jeudi, c'est à Mer et le vendredi à Beaugency.
D'accord. Et donc là, il faut s'inscrire. Maintenant, tu n'as plus de stand de pain à la MAP, en fait. Il faut, enfin, je veux dire...
Si, j'ai toujours un petit, une corbeille avec quelques pains en plus pour les étourdis ou les imprévus, voilà.
Juste une dernière chose. Valoriser sa céréale, on parle beaucoup de crise agricole. Valoriser sa céréale en la transformant, c'est une plus-value qui permet d'avoir une activité viable sur une ferme bio, par exemple?
Ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai créé un mi-temps sur la ferme pour la partie transformation. Finalement, ça paye surtout cet emploi-là. Ça m'apporte un petit plus, mais je crois que c'est surtout de ne pas rentrer dans le piège. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, rentrer dans le piège de vouloir produire toujours plus avec des plus grosses machines en achetant plein de produits qui font que chaque année, on s'endette. Et si la récolte n'est pas à la hauteur de ce qu'on a investi dans son champ, en plus d'avoir... polluer, à mon avis, hein, voilà, on risque de finir en slip.
En slip. Voilà. Sachant que toi, tu as repris les 95 hectares.
Mon père avait un peu plus. J'en ai repris que 95, il en avait 115.
D'accord. Et donc, tu as repris 95, avec 95 hectares, tu arrives à t'en sortir.
Oui, j'embauche même un saisonnier en été. Oui, si ça marche comme ça. Après, je bricole un peu, hein. Je répare plus ou moins mes tracteurs moi-même. Tout ça.
Oui,
ça
mais ça veut dire que c'est possible et qu'on n'est pas obligé d'avoir 250 hectares de céréales pour que ce soit viable.
Oui, puis après, la ferme de 250 hectares, il faut la transmettre, c'est difficile. Non, c'est un modèle différent auquel je crois et je suis content, en fait, si ça me plaît énormément, de prouver qu'on peut fonctionner comme ça.
Et ce qui était intéressant, c'est que tu disais que ça tourne beaucoup au fournil. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes ou peut-être moins jeunes qui viennent, que ça intéresse le pain, faire le pain de cette façon-là.
Bah ouais, on se réaccapare des façons de produire des choses qui ont du goût, de façon simple en fait. On peut tout faire à la main. Moi j'ai un pétrin là, ça m'aide un peu, mais j'ai commencé à la main. Et il y a plein de jeunes qui aiment venir découvrir. Alors, en ce moment, j'ai un jeune qui est là pour... Il a signé un CDD de 6 mois. Il avait envie d'apprendre à faire du pain.
Il avait une formation de boulanger traditionnel?
Non, il veut se lancer dans le maraîchage, mais avant, voilà, il veut essayer ça.
D'accord. Et peut-être une dernière chose sur la cuisson du pain. Tu cuis dans un four à bois?
Ça a été le gros investissement, finalement. J'ai acheté un four qui se chauffe au bois. J'ai fait construire un four qui chauffe au bois et avec c'est une chauffe indirecte et ça permet que ça soit assez simple d'enfourner, de défourner. Il n'y a pas à faire comme autrefois les fours en demi-lune romains en briques là, où il fallait mettre le bois dans la chambre de cuisson. Après, il fallait sortir les braises, nettoyer. Donc là, je suis sur un système un peu plus...
moderne.
À gueulard, ce qu'on appelle à gueulard.
Ouais, bah ça, c'était les anciens systèmes.
Et qu'est-ce que ça change, la cuisson au four à bois? Par rapport à... Parce que dans les boulangeries, pas traditionnelles, mais je veux dire les boulangeries classiques, c'est quoi? C'est four électrique? C'est four...
Ouais, bien souvent. Après, ça peut être à gaz. Mais là, c'est un choix, je pense, éthique, d'une part, pour moi. Et puis,
éthique en termes d'énergie?
Ouais, en termes d'énergie, même si les centrales ne sont pas super loin. Bon, voilà.
C'est vrai que Saint-Laurent-Non est juste à côté. L'électricité ne coûte pas cher, là-bas.
L'idée, c'est d'avoir... pour moi, c'est une énergie renouvelable, le bois, quoi. Voilà. Surtout, j'entoure mes champs avec des haies, donc dans quelques années, là, je vais pouvoir récupérer aussi mon bois. Et Puis ouais, c'est plus rustique hein, d'entendre le feu qui crépite, ça chauffe la pièce aussi. En hiver, c'est pas plus mal.
Mm-hmm. Et ça donne un goût ? Ça donne un goût
différent. Sur ce type de four, non, je crois pas. D'accord. Non, il n'y a pas de communication entre la chambre de cuisson et le foyer.
Ok. Chers camarades, oui. Je ne sais pas si vous souhaitez.
On aurait bien aimé goûter, mais.
Eh bien, il faudra aller à la MAP de Mer
ou de Beaugency.
Ou à la boutique, comme ça, voir le fournil.
Moi, je voulais juste faire un parallèle en fait, entre les vignerons qui travaillent justement d'une certaine manière et puis les boulangers et paysans boulangers qui travaillent aussi d'une. Comme Amédée, en fait, à son pain est unique. En le goûtant, il y a des arômes qui sont propres à ses farines et à sa manière de travailler. Et c'est tout un monde, c'est extraordinaire.
Ouais, il y a vraiment une notion de terroir, quoi, de singularité qui est à souligner.
Et d'arômes aussi particuliers.
Des arômes, des saveurs particulières qu'on ne retrouve pas du tout dans les boulangers conventionnels.
À propos de saveurs. Véro, oui, si on parlait des souvenirs d'enfance
De Maïlinda, ouais, on va faire une petite parenthèse albanaise. Se souvenir des bonnes choses.
J'ai commencé mes premières expériences en cuisine quand j'étais dans le sixième, j'avais 11-12 ans. J'avais toujours la curiosité parce que la cuisine c'était interdite pour moi. Parce que ma mère, quand elle faisait la cuisine, elle voulait personne autour d'elle. C'était sa phobie que quelqu'un la dérangeait en train qu'elle était en train de faire la cuisine. Et j'ai commencé un jour, la première expérience, quand il n'y avait personne à la maison. Je suis rentrée de l'école, mes parents étaient à travail. Et c'était comme ça, j'ai commencé, j'ai fait une belle plat. Et j'avais la hâte de le faire essayer à les autres. Quand ma mère, elle a commencé à crier, on t'a vu, pourquoi tu as fait ça, allez, on va essayer. Elle a essayé, c'était bon. Pareil, c'était bon. Et elle a dit, toutes les fois, tu vas faire le déjeuner. Si comme tu sais, tu vas faire le déjeuner toutes les fois. C'était une expérience qui m'a pas trop convaincue. Parce qu'après, c'était mon tâche à faire ça. Ouais. Pas vraiment une vraie déjeuner, mais bon, une plat, une entrée, une salade et c'est tout.
Mais qu'est-ce que tu avais fait alors ? C'était quoi ?
Ah ben je me souviens pas vraiment. Mais nous en Albanie, on a beaucoup les plats. On fait le viande avec les légumes, un peu de jus, le mijoté en général. Ça c'est les plats de toujours, des mijotés, très peu de jus et légumes et viande. Ça doit être quelque chose comme ça. Peut-être une mix de légumes, un ratatouille, bon. Ça doit être ça.
Et alors après, donc, si j'ai bien compris, ta punition, c'était de faire...
Non, c'était pas une punition, mais si comme elle a dit que c'était bien, tu gâches pas la nourriture avec ça, avec tes expériments, tu vas le faire.
Ouais. Et du coup, est-ce qu'il fallait que tu cherches aussi des plats à faire ?
Oui, je me souviens que ma mère, elle avait des livres de cuisine. Et je me souviens même quand j'étais petite, j'étais en train de feuilleter cette livre. Elle avait plusieurs. Plusieurs livres de cuisine, des recettes. Et je me souviens toujours, même plus petite, d'avoir ce type de livre dans les mains. Ça me plaisait beaucoup. Même les lire, ça me créait avec ma imagination que j'étais en train de faire cette recette. C'était un plaisir, oui. Oui, oui, la cuisine reste une passion même aujourd'hui pour moi, oui.
Est-ce que tu peux décrire un petit peu la cuisine albanaise dans son ensemble ? Donc, tu disais qu'il y avait pas mal de viande mijotée, ouais, avec des légumes.
Oui, on fait le viande tous les jours. On ne comprend pas à faire la cuisine sans viande.
Alors, ouais. C'est-à-dire que vous en mangez le midi et le soir aussi ? Ça peut être deux fois par jour ?
Ça peut être deux fois par jour, mais le soir, chez nous, c'est un peu plus simple, on peut faire une salade, des petits trucs à grignoter. on peut dire comme un apéritif, mais un peu plus élaboré. Oui, des petits trucs, fromage, des charcuteries, des salades, comme ça. Le dîner est un peu plus simple. C'est, on ne se met pas à cuisiner pour faire le dîner. Sauf si on n'a pas fait la cuisine pour le déjeuner. Si le déjeuner était simple, le dîner est un vrai repas. Ouais. Ouais.
Voilà. Donc, je sais, après, je lui ai demandé, j'ai demandé à Maïlinda s'il y avait des restaurants, si elle connaissait un restaurant albanais. Mais en fait, effectivement, il y en a peu. Hein. Enfin, moi, j'en connais pas. Même moi qui suis parisienne, qui ai fait beaucoup de restaurants, certainement qu'il y en a. Mais voilà. Donc, bon, c'est une cuisine un peu particulière. Je pense qu'Alice, ça va pas aller de manger de la viande midi et soir. Ça va pas aller
ça
pour toi.
Ça va peut-être être compliqué.
Voilà, donc je salue Maïlinda si elle nous écoute.
Merci pour ces souvenirs. Il est temps pour nous de clore cette émission. Merci Amédée d'être venu nous parler de ton métier, nous avoir fait découvrir une bonne façon de faire du pain et peut-être d'ouvrir, comment dire, de se rendre compte qu'on n'est pas un obligé d'acheter la baguette infâme du supermarché et deux de prendre le pain de la boulangerie du coin qui est pas toujours fameux. Voilà, il y a des gens qui font du très très bon pain et donc j'en profite pour citer un petit ouvrage qui est fort sympathique qui s'appelle Tronche de pain, sous-titré Le guide des pains qui ont de la gueule. Donc c'est paru en 2017 aux éditions de l'Épure Marie Rocher.
Et pas le contraire.
Et voilà. Et en fait, c'est un peu la compilation d'une soixantaine de boulangers paysans et boulangers qui travaillent à partir de variétés...
De farine paysanne, de farine locale et de levain.
Et qui travaillent tous au levain. Et c'est chaque portrait sur une double page. Il y a la photo du boulanger, du paysan boulanger, la photo du pain. Et franchement, il y en a... Ça donne juste envie de mordre
mettre
dedans,
du beurre dessus.
De mettre du beurre dessus.
Croquer dedans.
On trouve les variétés de céréales utilisées, ceux qui cherchent le sans gluten peuvent trouver les boulangers qui panifient, enfin qui travaillent ce type de céréales.
Non, ils nous gonflent les gens qui veulent pas de gluten, ils bouffent autre chose.
Ils n'ont qu'à aller sur 750 grammes.
Exactement, il y a plein de recettes pourries sans gluten.
Marmiton, il paraît qu'il y avait Super Toinette aussi. Bref, je ne vais pas relancer le débat. Merci à tous d'avoir participé.
Merci.
Et puis on se retrouve le mois prochain. Ouais, normalement, on parlera de cuisine de printemps.
Ouais, t'avances pas. Parce que,
on verra.
Il peut y avoir des changements, tu sais.
C'est vrai. Tout est incertain.
Ça peut ne pas être le printemps.
Tout est incertain désormais. Mais enfin, moi, j'ai appris qu'aujourd'hui, qu'Abdelaziz Bouteflika a renoncé à son cinquième mandat.
C'est pas un œil ailleurs, on te l'a déjà dit.
Mais je suis quand même bien contente. Allez, bonne soirée à tous au mois prochain. Salut.
Merci. Salut.
C'est pas comparable à rien, mais je vous assure. Et me pense qu'il y a des putes minières, ce que vous minier. Capable de mourir pour être mourir tout d'une cop que ça va être contente.